Demandons à Dieu et au Saint-Esprit son aide pour que nous comprenions bien, en profondeur, pas superficiellement, ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui à travers sa parole. Quelle merveille, Seigneur, de nous savoir accueillis par toi. Souvent, on a l'impression que c'est nous qui t'accueillons lorsque nous venons au temple. Mais c'est d'abord toi qui nous accueilles, Seigneur. Et c'est merveilleux de se savoir accueilli par celui qui a créé le ciel et la terre, par celui qui a donné son Fils Jésus, pour que notre péché soit effacé, à celui qui nous aime d'un amour dont on ne pourra jamais mesurer la profondeur. Oui, merci pour toutes ces choses, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, nous avons vraiment besoin du secours de ton esprit pour comprendre, pour que nos cœurs soient touchés, et pour que nous gardions aussi la mémoire, Seigneur, de ce que tu nous auras fait comprendre, pour que, en sortant de ce culte, nous n'ayons pas oublié ce que tu nous as dit, et pour que tu nous donnes aussi la volonté, Seigneur, de t'obéir si nous avons entendu quelque chose de ta part. Voilà, c'est ce que nous te demandons, Seigneur, que ton esprit règne au milieu de nous, nous touche chacun personnellement. Amen.
Amen.
Je vais vous lire aujourd'hui un passage qui est très 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 connu. C'est dans le livre de Jonas. Je ne vais pas lire les deux premiers chapitres. Je vais lire les chapitres 3 et 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. Alors Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était devant Dieu une grande ville de 3 jours de marche. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche, et il criait ces mots: encore 40 jours, et Ninive sera bouleversée. Je pense qu'il le disait autrement, plus énergique. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive: par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail ne goûtent de rien, ne pèsent pas, ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de ça, qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret, et s'il ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Il pria l'Éternel et dit: ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit: fais-tu bien de te fâcher? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit intervenir un ricin qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, Quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver pour s'attaquer au ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant, et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin ?» Il répondit « Je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit « Toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui est péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. Je vais vous lire quelques versets dans Matthieu au chapitre 9, les versets 35 à 38. Donc c'est avant que Jésus choisisse ses disciples. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leur synagogue, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Vous avez peut-être remarqué les paroles du début du chapitre 3 de Jonas. Ce petit détail, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Donc je n'ai pas lu les deux premiers chapitres, mais vous vous souvenez certainement que le prophète Jonas, dont le nom signifie colombe, entre parenthèses, n'avait pas voulu obéir à Dieu qui lui ordonnait d'aller à Ninive. Il avait pour mission de dire aux habitants de cette ville que la patience de Dieu était arrivée à son terme et que son jugement, le jugement de Dieu, allait s'exercer s'ils ne confessaient pas leurs péchés et ne changeaient pas de vie. Je vous rappelle ce que dit Jonas au chapitre 1, le verset 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Mais Jonas n'avait pas obéi, et il était parti dans la direction opposée pour essayer d'échapper à Dieu et à la mission qui lui avait été confiée. Si Ninive est là, Jonas était parti par là, c'est-à-dire en Espagne. C'est ce qu'on dit en tous les cas, c'est ce que les exégètes pensent. Il est curieux de voir comment nous, les humains, nous nous comportons parfois avec Dieu. Nous pensons pouvoir échapper à son regard, à son appel, à une mission qu'il nous a confiée, à ses avertissements ou à ses mises en garde. Et c'est pourtant parfaitement impossible. Et j'ajoute, heureusement. Le psalmiste avait bien compris cela. Et il en était même émerveillé. Je vous lis quelques passages du psaume 139. C'est le psalmiste qui s'écrit à Dieu, « Mais où irai-je, loin de ton esprit? Et où fuirai-je, loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche aux eaux des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. » Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Jonas n'avait pas compris qu'on peut se soustraire à la vue de Dieu et à la volonté de Dieu. Et à cause de son refus d'obéir, il s'est trouvé dans une fâcheuse situation, avalé par un gros poisson. Il y est resté pendant 3 jours et 3 nuits avant d'être vomi sur la terre ferme. Mais il n'en a pas seulement été quitte pour la peur. Dieu ne l'a pas lâché, même si jusqu'à présent il avait été rebelle. J'ai envie de dire, encore une fois, heureusement, heureusement pour Jonas. Mais j'ai aussitôt envie d'ajouter, heureusement pour les Ninivites. Car ce qui se joue dans cette mission, c'est la vie ou la mort de 120 000 êtres humains. Vous l'avez entendu dans le texte. Dieu ne se laisse pas décourager par la première incartade de son prophète. Contrairement à nous, Dieu va jusqu'au bout de son plan. Pourquoi ? Parce qu'il va jusqu'au bout de son amour. Parce qu'il y a des hommes à sauver. Et c'est la raison pour laquelle il confie exactement la même mission pour la seconde fois. Va leur dire à ces hommes qui commettent des infamies, ça c'est moi, hein, mais c'est pareil. Va leur dire à ces hommes qui commettent des infamies, mais que je veux sauver parce que je les aime, que s'ils ne reviennent pas de leur péché, je vais être obligé d'exercer mon jugement sur eux. C'est cela que veut dire le message que Jonas doit crier de la part de Dieu. Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Jonas 3, 4. Je voudrais souligner l'importance de ce délai de 40 jours que Dieu accorde aux Ninivites. Dieu ne prend jamais personne en traître. Lorsque, à cause de leur désobéissance à la voix de Dieu, les hommes se placent sous son jugement, Dieu les prévient toujours avant que sa justice s'exerce. Il leur laisse toujours du temps dans l'espoir qu'ils vont changer. On le voit avec l'histoire du déluge. Dans son épître, Pierre nous parle de ceux, je cite, qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Au jour de Noé, construisait l'arche. Au jour où Noé construisait l'arche. 1 Pierre 3, 20. On le voit aussi dans 2 Rois 17, 13, 14. À propos de la déportation des Israélites à Babylone, qu'est-ce qui nous est dit là ? L'Éternel fit avertir solennellement pendant des siècles, ça c'est moi qui l'ajoute, mais c'est la vérité. Israël et Juda, par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous les voyants, et leur dit : revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements. Le délai que Dieu accorde aux hommes qui restent sourds à son appel peut durer parfois beaucoup plus que 40 jours. Mais il faut prendre conscience qu'il y a un temps où le délai se terminera inéluctablement. Et ce jour, c'est le jour où l'homme cesse de vivre. Pourquoi Dieu prévient-il toujours avant d'exercer son jugement ? Parce que Dieu ne cherche pas à punir. Dieu n'est pas le Dieu que je croyais quand j'étais petit, qui surveillait toutes mes fautes et qui me tapait avec sa grosse baguette sur la tête. Non. Dieu ne cherche pas à punir l'homme, mais il cherche à le sauver. Si Dieu veut faire prendre conscience à l'homme de son péché, c'est pour le délivrer de la mort spirituelle vers laquelle son péché l'entraîne. Paul a écrit en Romains 6, 23 quelque chose qui est important à comprendre. Le salaire du péché, c'est la mort. De nos jours, frères et sœurs, vous le savez bien, Une large majorité d'hommes et de femmes ne sont pas capables de mesurer la gravité de cet avertissement et d'en tirer les conséquences. C'est-à-dire de renoncer à leur péché, se repentir, comme l'a fait le peuple de Ninive, puis le roi. Notre environnement médiatique, c'est-à-dire la radio, la TV, la presse écrite, la publicité, le cinéma, la littérature, qui déverse sans retenue des flots d'images nauséabondes, des façons de vivre et des idéologies que Dieu condamne, émousse chez nos contemporains la perception de la gravité du péché. Ils ignorent cette gravité et ses conséquences parce qu'ils les regardent avec les lunettes du monde qui leur prêche la tolérance et l'esprit d'ouverture. Soyons ouverts. Quels sont nos critères pour juger de la gravité du péché? Ceux du monde ou bien ceux de Dieu? Une majorité de nos contemporains n'ont pas pris conscience que Dieu est sérieux lorsqu'il nous prévient de la gravité du péché. Ils ignorent qu'une vie ne sera jamais droite si le péché est toléré dans cette vie et si le compromis demeure. Le monde sans Dieu les entraîne dans le compromis. Dieu, lui, veut les en faire sortir car le compromis, c'est déjà le péché. Si les hommes n'entendent pas, s'ils ne réagissent pas, s'ils ne reviennent pas, le jugement s'exercera parce que Dieu est un Dieu de justice qui, je cite Exode 34:7, qui ne tient pas le coupable pour innocent. Et même quand il punit Dieu, c'est dans le but que l'homme change de comportement. Mais si les hommes reviennent, s'ils se repentent, Dieu revient aussi sur sa décision et il pardonne. Vous avez entendu Jonas 3:10. Dieu vit qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Quelle joie il y a dû avoir dans le ciel et dans le cœur de Dieu lorsque les Ninivites et le roi se sont repentis de leurs péchés. En envoyant Jonas à Ninive, le but de Dieu n'était pas de punir les pécheurs, mais de les sauver. Et son but, il était atteint. Dieu ne plaisante jamais avec le péché. Il le condamne toujours. Pourquoi? Parce que l'homme se condamne lui-même en ne se repentant pas. Mais Dieu ne plaisante pas non plus avec le salut. Jésus a donné sa vie pour que le péché soit pardonné et pour que l'homme pardonné retrouve la communion avec Dieu. Comme pour Jonas, Dieu a confié une mission précise à notre petite église. Allez voir les gens de notre ville et de nos villages pour les inviter au parcours Alpha, qui va commencer dans 5 jours. Ne considérons pas que c'est une idée comme une autre, plus ou moins pertinente, pour laquelle nous pourrions prendre la liberté d'agir comme Jonas, c'est-à-dire de faire la sourde oreille. Chacun de nous est membre d'un seul corps, celui de Christ. Et ce que Christ a demandé à ses disciples avant de remonter vers son Père, c'est de faire, je cite, de toutes les nations des disciples, de les baptiser et de leur enseigner à garder la parole. Matthieu 28:19. Comme membre de ce corps, je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui, là. Nous nous appelons tous Jonas. Et nous sommes tous envoyés dans cette mission. Pour illustrer cela, je prends l'image de Paul dans 1 Corinthiens 12, 14, 21. Je cite. « Le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs, écrit-il. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et l'apôtre ajoute, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Frères et sœurs, se désolidariser de cette mission essentielle qui, n'en doutons pas, est voulue par Dieu, c'est faire comme Jonas. C'est partir pour Tarsis alors que Dieu nous appelle à aller voir les gens de Ninive. Un tiers comme à Ninive, il y a des milliers de gens, peut-être pas 120 000, parce que Thiers est plus petite que Ninive, mais des milliers de gens, qui, comme le dit Dieu à son prophète, ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ne savent pas se diriger. Genre, j'étais dans une voiture avec une personne, puis je ne savais pas bien la route, et c'est elle qui la savait un petit peu plus que moi, et puis elle me disait, tu tournes à droite. Et puis elle me montrait la gauche. La droite, je disais, la droite droite ou la droite? Ils ne savent pas se diriger, ils n'ont eu ou jamais eu de boussole pour leur vie encore. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'ignorance absolue que la route sans Dieu qu'ils ont choisie jusqu'à présent les conduit au jugement. Se désolidariser d'ariser de cette mission, c'est se comporter comme un pied qui dirait « Parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps. » Plus concrètement, ça veut dire « Voilà, je ne suis pas d'accord avec cette façon d'évangéliser. Alors, je me retire. » Ou bien alors, « Je suis trop vieux. » Ou « Je suis beaucoup trop jeune. » « Oh, j'habite trop loin. » Ou « Trop tout ce que vous voulez. » Et je me retire. Ou bien encore, je ne suis pas assez. Alors là, mettez tout ce que vous voulez là. Je ne suis pas assez. Donc, je me retire. Se désolidariser de cette mission, c'est un peu comme tomber sous le coup de la loi de non-assistance à personne en danger. Sommes-nous toujours conscients que les hommes et les femmes qui vivent, agissent et agissent comme si Dieu n'existait pas, sont en danger de mort spirituelle? Se désolidariser de cette mission, c'est adopter l'attitude qui consiste à penser « Du moment que je suis sauvé, tout va bien ». Je crois qu'il y a un roi qui a dit après moi le déluge. C'est pareil ça. Dimanche dernier, notre pasteur a parlé de la différence qu'il y a entre obéir à Dieu comme un esclave obéit à son maître et faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire lui obéir en s'offrant soi-même à Dieu, pas par obéissance, mais par amour. Dans cette mission d'évangélisation, frères et sœurs, n'obéissons pas à Dieu par légalisme ou par devoir ou en traînant les pieds ou pour tenter d'éviter de se faire avaler par un gros poisson. Répondons à l'amour de Dieu qui nous a attirés à lui en exerçant les dons qu'il nous a tous donnés. Nous avons chacun ici présent, tous reçu des dons de Dieu. Tous, même si vous ne les connaissez pas. En exerçant les dons qu'il nous a tous accordés, pour quoi faire? Pour attirer à lui d'autres hommes et d'autres femmes qui, jusqu'à aujourd'hui, ne connaissent pas encore Christ comme leur berger. Et qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Attire aussi, en voyant ses habitants, les habitants de Thiers, Jésus aurait pu, je cite, avoir compassion d'eux et dire qu'ils étaient lassés et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger et qui, je le répète, ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Ils auraient pu dire ça à Jésus aussi. Mais le texte ne s'arrête pas là. Il se poursuit ainsi. Alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. J'ajoute quelque chose que je n'ai pas écrit là. Peut-être qu'ils ont prié les disciples en disant, oh Seigneur, tu pourrais peut-être envoyer quelqu'un d'autre, quoi. Ils ont prié et manque de peau, comme on dit, vulgairement. C'est eux qui ont prié que Jésus a choisi comme disciple pour aller apporter la bonne nouvelle. Faites attention quand vous priez. Les disciples de Christ à Thiers, c'est chacun de nous. Offrons-nous à lui. Offrons-nous à lui par amour. Remémorons-nous l'amour que Dieu a eu pour nous lorsque il a permis que nous passions de l'incrédulité à la foi. Offrons-nous à lui et entrons joyeusement dans sa moisson. Il reste 5 jours avant que le parcours Alpha commence. Cinq jours pour commencer à prier si vous n'avez pas déjà fait. Et soyez persévérants parce que ça va durer 10 semaines. 5 jours pour inviter des voisins ou des inconnus qui n'attendent peut-être sans le savoir que votre visite pour que leur vie change radicalement. Comme la vôtre a changé lorsque vous vous êtes converti. Il y a bien un moment où ça s'est passé. Et si vous vous souvenez, c'est bien grâce à quelqu'un. Quand on va voir des gens, quand on sonne, comme j'ai été obligé de le faire, parce que je ne connais que des chrétiens. Première fois, il y a des gens qui m'ont super bien accueilli, j'ai pu parler avec eux. Et c'est drôle, la seconde fois, ça m'a encouragé. J'étais tout feu, tout flamme. Et la seconde fois, attention, les portes claquaient. Ils ne voulaient même pas savoir ce que je leur disais. À partir du moment où ils entendaient le mot « église », c'était fini. Tout était bloqué. Paf ! La serrure, c'était fini. Frères et sœurs, ces hommes et ces femmes qui nous claquent la porte lorsqu'on parle d'église, ce sont des enfants de Dieu aussi. Et ils ont la même recherche intérieure, même s'ils ne le savent pas. Ils ont le même désir de vie que nous avons eu, que nous avons toujours, parce que même lorsque on a la certitude d'être sauvé, ce désir de vie, il est toujours là. Et on remercie Dieu. Et il y a des gens qui ne le savent pas, comme les Ninivites ne le savaient pas non plus. 5 jours pour faire demi-tour. Si, comme Jonas, vous étiez parti dans la direction opposée avec des boules quièces dans les oreilles, pour ne pas entendre Dieu vous envoyer dans cette mission. Voilà la prière que ça serait bien que chacun puisse faire dans son cœur. Seigneur, touche mon cœur pour que je sois sensible à quoi ? À la situation des hommes qui vivent sans toi. Mais touche aussi mes oreilles, Seigneur, pour que j'entende ton appel. Et que j'y réponde avec joie en m'offrant à toi, Seigneur. Ça change tout, frères et sœurs. Lorsqu'on renâcle à faire les choses, lorsqu'on les fait par devoir, lorsqu'on les fait parce qu'on se demande ce que les autres vont penser si on ne les fait pas. Et puis lorsqu'on les fait en disant, mais Seigneur, attends, je ne peux pas faire autrement. Parce que toi, tu as envoyé quelqu'un auprès de moi. Et maintenant, ma vie a été complètement changée à cause de ça. Et il y a des gens que tu aimes, Seigneur, et qui ont besoin aussi de vivre ce que tu m'as permis de vivre. Que le Seigneur vous parle, frères et sœurs, et me parle aussi.